à Dieu. Voilà, je voudrais vous partager un texte, ou en tout cas une pensée, qui pourrait peut-être vous interpeller dans votre cœur. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question. Qui était Jésus réellement? Est-ce que Jésus est-il Dieu? Très intéressant. Parce que c'est des questions que se pose l'humanité, des questions que peuvent se poser les musulmans. Les témoins de Jéhovah aussi en parlent, et c'est souvent des discussions assez intenses avec eux à ce sujet. On parle, même les juifs, à l'époque, déjà, ils étaient un petit peu dans cette réflexion, et encore aujourd'hui. Et bien d'autres pourraient peut-être se poser cette question. Et tout à l'heure, au premier culte, une sœur est venue me voir, me dit, mais c'est incroyable, parce que c'était la question que j'avais posée à Dieu ce matin dans mon temps de prière, et le Seigneur m'a répondu. Alors, je crois que c'est important de pouvoir partager ce sujet. En tout cas, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je l'avais déjà abordé il y a 3-4 ans de cela. Là, j'ai apporté un petit peu plus de contenu dans ma prédication, mais je voulais vraiment partager quelque chose d'intéressant. Et jamais homme n'a suscité autant que de questionnements, d'agacements, de révolte, de haine, d'amour que Jésus. C'est-à-dire que Jésus, déjà à l'époque, il a secoué les religions. Il a secoué les peuples. Il a agacé certains. La preuve, c'est qu'il a tellement secoué la population de l'époque et la génération de l'époque qu'on l'a crucifié à la croix. Parce qu'il a agacé les gens, les consciences, et encore aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et la preuve, c'est qu'à l'époque, les huissiers, les sacrificateurs, les pharisiens échangeaient ensemble. Il y avait les religieux, il y avait les hommes d'État, il y avait les penseurs de l'époque, et ils parlaient. C'était vraiment des conversations très vives, des échanges très vifs. Et les huissiers, à un moment donné, ont dit ceci dans Jean chapitre 17, verset 46, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » C'est-à-dire que Jésus avait vraiment un langage atypique. Il n'a jamais été contesté. Il a toujours retourné les situations. On lui a posé parfois certaines questions pièges, et à chaque fois, il a eu la parole à propos. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alors, que peut-on dire de Jésus? Il a été conçu par le Saint-Esprit, ça c'est sûr. Il est né dans une crèche. La parole de Dieu nous montre que finalement, il a été mis au rang des malfaiteurs, mais même déjà à la base, au départ, à la crèche, il a été mis au banc de ceux qu'on ne voulait pas, des renégats. Alors que d'autres étaient nés dans un hôtel, dans le confort, dans une famille, avec le cocon familial, eux et lui, il a été rejeté. Fils du charpentier, il a grandi auprès de ses parents terrestres, Joseph et Marie, il a été aimé avec ses parents. Puis rien pour attirer le regard, nous dit la Bible, c'est-à-dire qu'on l'aurait croisé dans la rue, on ne serait même pas aperçu qu'on avait affaire au Fils de Dieu. Et finalement, c'était un simple homme, quelqu'un de, excusez-moi l'expression triviale, banal quelque part, parce qu'il ne voulait pas se faire remarquer, il n'était pas là pour en jouer, il n'avait pas besoin de tout ça, Jésus. Il n'avait pas besoin de toutes ces phrases, c'est-à-dire « m'as-tu vu ?» Il n'avait pas besoin de toutes ces choses, parce qu'il était le Fils de Dieu. Et à l'âge de 12 ans, il a commencé à enseigner dans le temple. Et là, c'était là, l'électrochoc avec les pharisiens, avec les hommes de loi. Ça a été un message puissant, fort, extraordinaire. Mais tout d'abord, je voudrais quand même, avant d'aller un petit peu plus loin sur la question qu'on s'est posée, est-ce que Jésus est le Fils de Dieu, tout d'abord, sur cette terre, Jésus était parfaitement homme. Sur cette terre. Il nous a dit de lui dans Jean 8, 28, Jésus dit « Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » C'est-à-dire qu'il a vraiment été en connexion avec le Père céleste, et même jusqu'à la croix, il a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est-à-dire qu'il avait besoin de ce Père, il avait besoin de cette connexion avec ce Papa, comme nous avons besoin de la connexion avec le Père. Avant l'incarnation et après l'incarnation, il y a eu ce changement. Il a gardé sa divinité en devenant parfaitement homme. C'est-à-dire que quand il était sur cette terre, il était comme vous et moi, mais il n'a pas abusé de sa divinité. Il a fait des miracles, il a fait des prodiges, c'est vrai, mais on en aurait fait autant. La preuve, c'est qu'il m'a dit, vous ferez de plus grands miracles que ce que moi j'ai pu faire sur cette terre. C'est-à-dire que Jésus est simplement venu sur cette terre nous montrer combien il fallait se soumettre au Père. Il a été le modèle parfait pour nous. C'est pour ça que, et ça c'est très intéressant, que Paul dit ceci dans les Philippiens chapitre 2, versets 7 à 8, il s'est dépouillé lui-même. C'est-à-dire qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable à toi, à moi, mon frère, ma sœur, c'est-à-dire aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire que sur cette terre, il avait toutes les émotions d'un être humain. Devant Lazare, il a pleuré. Il a souffert à la croix. Quand il a été fouetté de 40 coups moins 1, croyez-moi, il a ressenti toutes les souffrances de l'humanité parce qu'il était homme sur cette terre. Il aurait pu en un instant, sortir de ce contexte. Il pourrait sortir de la croix. Il aurait pu quitter la croix. Quand il a été fouetté, il aurait pu appeler une légion d'anges pour ratiboiser tous les soldats. Il ne l'a pas fait. C'est-à-dire que tout en étant divin, il a voulu aller jusqu'au bout dans son humanité, en restant comme nous. Excusez-moi de dire ça, je dis chapeau. Parce qu'il aurait pu utiliser son pouvoir de divinité, son pouvoir de Dieu Tout-Puissant. Il aurait pu utiliser le fait qu'il soit, je dirais, ce Dieu, mais prenant la forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes, comme un être humain, devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix, tout ça pour parfaitement nous comprendre, pour vivre ce que nous ressentons. Il est devenu un modèle de soumission, un exemple pour tous, pour que nous puissions aussi nous tourner vers le Père Céleste, nous soumettre à lui, nous abandonner à lui, souffrir comme lui il a souffert, parce que lui il est passé par là et puis il sait exactement ce que nous sommes en train de vivre. Un jour j'ai entendu une prière d'une chrétienne qui m'a glacé, me dit « Mais Jésus, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de vivre, bébé. » Oui, justement, il peut le comprendre parfaitement, parce qu'il est allé au-delà de toutes les souffrances de l'humanité, à la croix. C'est pour ça que je dis chapeau. Jésus, il s'est fait parfaitement homme. Il s'est dépouillé de toute cette puissance pour pouvoir mieux nous comprendre, mieux nous saisir. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que dans Ésaïe, au chapitre 9, verset 5, Ésaïe annonce la naissance de Jésus 750 ans avant sa venue. Et il dit ceci, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. » C'est-à-dire qu'il faut bien dissocier quand il était dans le terrestre, maintenant dans le ciel. Et il s'est fait homme, il s'est fait, je dirais, enfant, et puis après il a grandi, puis il est monté vers le ciel de gloire. Et la Bible nous dit qu'on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Dieu puissant, Père éternel. C'est-à-dire que Jésus n'a jamais été créé. Pour ça que je vous ai posé la question, est-ce que Jésus est Dieu? Bien sûr, parce que déjà là, ce passage nous en parle. C'est-à-dire, ce passage nous montre que finalement, il est le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel. Mais la Bible nous dit aussi qu'il est conseiller. Et ce qui est intéressant dans ce mot conseiller, c'est que Jésus n'a jamais demandé l'avis à ses disciples. Dans le genre de dire, mais dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ceci? Jamais. Jésus n'est jamais allé voir les disciples en disant, écoutez, j'ai un projet, qu'est-ce que vous en pensez? Jamais. Parce qu'il était le conseiller parfait. Parce qu'il était finalement celui qui était là parfaitement homme, mais qui avait toute la grâce de Dieu sur sa vie. Déjà à sa naissance, un ange apparut à Joseph, dans Matthieu, chapitre 1er, verset 23, il a dit, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie... Est-ce que l'ange s'est trompé? Est-ce que vous croyez que l'ange s'est trompé en disant Dieu avec nous, en parlant de Jésus? Voyez, juste pour vous poser déjà, pour vous interpeller par rapport à ce que savoir si Jésus était Dieu, oui, parfaitement. Tout en dissociant que sur terre, il s'était fait homme, d'accord? Mais parfaitement Dieu. Parce que finalement, quelque part, il a voulu essayer de nous comprendre. Il nous a compris. Ça, c'est quelque chose de très clair. Alors, Jésus est-il Dieu? Ben, on peut aller même un peu plus loin. Dans Hébreux, chapitre 1, verset 2 à 3, il est dit « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. » J'aime bien ce texte. Parce que ce texte nous dit, il a créé le monde. Ça nous rappelle Genèse chapitre 1, verset 1, où il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et là, dans ce texte, nous dit que le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. C'est-à-dire qu'on voit dans la création le Fils, dans Genèse 1, 1. Il est le reflet de sa gloire. Que voyons-nous quand on se regarde dans un miroir? On voit le reflet de notre personne. Mais on va aller un petit peu plus loin. Vous rentrez dans de l'eau, et puis vous regardez l'eau, et puis vous allez vous apercevoir qu'il y a une silhouette qui se dessine, c'est votre tête. C'est le reflet de votre visage. Et ce reflet de ce visage, il est imparfait comme ça. C'est pour ça que ce texte va aller un petit peu plus loin en disant, il est plus que le reflet de sa gloire, il est aussi l'empreinte de sa personne. Vous me suivez ? Il est l'empreinte de sa personne. C'est-à-dire que Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose de très intéressant qu'on peut apporter ensemble. Les empreintes digitales sont uniques pour chaque individu. Vous le saviez, ça? Elles sont uniques pour chacun d'entre nous. Prenons l'exemple d'un père et d'un fils sur les empreintes. Nous aurons deux résultats différents, pourtant le même sang. Moi, mon papa a des empreintes différentes des miennes, pourtant on a le même sang. Ça, c'est clair. Si je vais un petit peu plus loin, maintenant peut-être sur les jumeaux. Les vrais jumeaux sont nés de la scission d'un seul œuf qui s'est séparé. À partir du moment où cet œuf s'est séparé, on voit là deux jumeaux. En conséquence, les deux partagent la même ADN, à savoir la même morphologie, le même groupe sanguin, les mêmes couleurs de cheveux, puisque c'est le même ADN. Puisque, quelque part, à la limite, ça vient du même œuf séparé en deux. Et pourtant, les vrais jumeaux ont des empreintes différentes. Et pourtant, ils sont jumeaux. Alors, quand on lit ce texte, où il est dit que le Fils est l'empreinte de Dieu, ça va très loin. C'est là où on se dit, oups, on ne peut pas différencier Dieu avec son Fils. Alors sur cette terre, bien sûr qu'on peut, on fait ce classement parce que ça nous est plus facile pour nous, mais il est la même personne. Pourquoi on dit le Fils? Parce qu'il est venu sur cette terre pour s'incarner en être humain. Mais autrement, il est la même personne, puisqu'il est l'empreinte de sa personne. Et je vais vous expliquer comment on développe cette empreinte digitale. Les deux vrais jumeaux sont nés de la scission, comme je viens de le dire, mais à la conception du fœtus, le développement de l'empreinte est intéressant à voir. Le développement d'une empreinte digitale, c'est au frottement des doigts sur le liquide amniotique. Quand l'enfant, quand le bébé est dans le ventre de sa mère et que ce liquide se brasse tout autour de son corps, il développe et il fait des sillons au niveau des mains. Et là, il développe déjà son empreinte. Il n'y a pas que ça. En plus de cela, il y a aussi la formation des os sous la peau des doigts qui va écarter la peau, qui va la modifier, qui va faire qu'il va avoir une empreinte personnalisée. Le succion du pouce, on le voit à l'échographie. Le mouvement des mains qui modèle l'épiderme. Et tout ça va faire que l'empreinte digitale est le seul moyen efficace dans une scène de crime, ça c'est sûr. Mais c'est la seule marque qui nous montre que nous sommes tous uniques, plus que l'ADN. Et c'est pour ça que ce texte de l'Épître aux Hébreux est très fort quand il nous a dit qu'il est l'empreinte du Père. C'est-à-dire qu'il est la même personne. Dieu déclare en parlant de Jésus qu'il est l'empreinte de sa personne. Ce n'est pas fini, voyons dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, verset 15, il dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. Verset 16, tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire que Jésus a créé toute chose par lui et pour lui. C'est-à-dire qu'il nous a même créé pour lui. Et c'est pour ça que quand le péché est venu, vu que c'est lui qui a tout fait, ben c'est lui qui est mort à la croix pour nous. C'est-à-dire que non seulement il fait toutes choses belles, mais nous on est venu salir tout cela et c'est lui qui a payé à notre place. La folie. Et c'est là où on s'aperçoit que finalement, il ne peut pas être humain pour faire ça. Il faut être divin. Il faut être Dieu puissant, Père éternel. Il faut être prince de la paix. Il faut être l'étoile du matin. Ésaïe 9. On comprend mieux ce verset, toute la dimension de Jésus. Et tout en étant cette divinité, eh bien, il s'est carrément dépouillé pour qu'on puisse être comme nous. C'est pour ça qu'il faut bien dissocier les choses. Et c'est là où ça nous fait réaliser toute la grandeur de Jésus finalement. Parce qu'il a su s'adapter, il a su se faire tout à tous. Il a su se mettre au milieu de chacun d'entre nous, de nous comprendre, avoir tous ses sentiments, tout en étant ce divin. C'est incroyable. Incroyable. Savoir qu'il a su s'adapter pendant toutes ces années pour mieux nous comprendre, jusqu'à mourir à la croix. Et pourtant, il était Dieu. Et il est Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il est dit dans Hébreux chapitre 1, verset 6, que tous les anges de Dieu l'adorent. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que n'adorer que Dieu seul, ça prouve qu'on pouvait adorer Jésus. Hébreux chapitre 1, verset 8, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » C'est Dieu qui s'adresse là, à son fils en disant « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » Hébreux chapitre 1, verset 9, il est dit « Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. » Dieu s'adresse à son fils en disant « Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. » Cela veut dire que Christ n'est pas seulement le Fils, mais il est Dieu. Il est un avec le Père, et de toute façon, on le voit, Jésus va lui dire dans Jean chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père, vous connaissez la suite, nous sommes un. » C'est très fort ça, nous sommes un. On n'est pas deux personnes qui sont là. Oui, bien sûr, sur cette terre, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais on ne va pas y revenir, mais là, ils sont un ensemble. Jésus est-il Dieu ? On a déjà quelques éléments de réponse dans ce que je viens de vous dire. Jean écrit quelque chose d'excellent dans tout cela, c'est dans Jean chapitre 1, verset 1er, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et là, c'est quelque chose de fort, de puissant, de savoir que Jésus, il est cette parole incarnée. Cette parole puissante. Remarquez avec moi cet échange avec Thomas, Philippe et Jésus. Thomas dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Thomas était un petit peu à côté de ses pompes, vous savez. Et à un moment donné, il était incrédule, il ne comprenait pas tout ça. Et puis, même, vous allez voir un petit peu plus tard, dans ma prédication, il va venir le voir, il va avoir des doutes sur la personne de Jésus-Christ. Mais là, il dit ceci, qui a peut-être même aussi affecté l'équipe qui était là, qui était avec lui. « Seigneur, nous savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» C'est-à-dire que lui, il n'a pas écouté le message de Jésus. Et deux versets plus bas, Philippe réplique en disant, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Écoute, Seigneur, tu es très bien, tu es quelqu'un de formidable, tu es quelqu'un qui fait des miracles, des prodiges, des choses incroyables, on te suit, mais tu sais, Jésus, bon, c'est bien, tu es quelqu'un de bien, montre-nous juste le Père, ça nous suffit. Toi, finalement, on peut te mettre de côté maintenant. Et c'est ce qui se passe parfois dans le milieu chrétien, où on met de côté un peu Jésus, parce que bon, il nous a sauvés, il nous a libérés, il nous a guéris, mais bon, Jésus, c'est, allez, on met de côté, maintenant je vais aller vers le Père. Sauf que Jésus, il dit, mais quand tu me vois, tu vois le Père. Vous me voyez ? Là, vous me voyez ? Je suis le Père. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Mais vous n'avez pas encore compris que je suis le Père, mes fils sur cette terre, pour sauver l'humanité ? Et ça, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi, ils n'ont pas réalisé que finalement, ils avaient affaire là, je dirais, à ce Dieu glorieux, à ce Père éternel, à ce Prince de la paix. C'était quelque chose, pour Philippe, peut-être qui le remuait, qui le touchait, qui l'interpellait. Et c'est vrai que l'incrédulité est un virus contagieux parce qu'on ne le comprend pas, cela. Alors que Jésus dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pour cette raison que Jésus a été crucifié à la croix. Il a été crucifié à la croix parce que Jésus a déclaré qu'il était le Père. Mais incarné en Jésus, son Fils, sur cette terre. Et là, ça a scandalisé tout le monde. Ça a bousculé tout le monde. Ça a secoué les consciences. Ça les a vraiment, je dirais, remués au plus profond de leur cœur. Remarquez avec moi ce parallèle avec Exode chapitre 3, verset 14, où Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Vous l'avez déjà lu ce texte, d'accord ?« Je suis celui qui suis ». Dans Jean chapitre 8, verset 58, dans le Nouveau Testament, là on était dans l'Ancien, dans le Nouveau, Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis ». Moi je suis. Je suis celui qui suis. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les gens sont devenus dingues parce qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'ils n'arrivaient pas à réaliser que finalement, ils avaient affaire à ce Jésus tout-puissant. Et c'est pour ça qu'à la croix du calvaire, Jésus dit, mes pères, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas compris que finalement, ils avaient affaire à ce sauveur sur cette terre. Qui allait pourtant aller à la droite du Père intercéder pour nous, c'est vrai. Mais tout en étant ce Père éternel, ce Prince de la paix, ce conseiller, ce Dieu tout-puissant. Et c'est ça qui est très important. C'est pour ça que Thomas, quand il est venu, nous a dit qu'il ne croyait pas trop en Jésus. Il dit, écoute Jésus, je doute que tu aies ressuscité des morts, je doute que ce soit toi. Il y avait dans son cœur comme quelque chose, il avait une certaine retenue. Et 8 jours après, était de nouveau dans la maison de Jésus, arriva au milieu d'eux, et Jésus salue tout le monde et s'adresse à Thomas. Il dit, écoute Thomas, il y a 8 jours de ça, tu doutais que j'ai pu ressusciter des morts. Et il dit ceci, il s'approche de lui et il lui dit ces quelques paroles, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Personne ne l'avait fait. Personne n'avait vu et aucun Dieu sur cette terre ait pu mourir et ressusciter par la suite. Il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Il dit, tu vois, regarde, je vais mettre ma main en face du projecteur. Regarde, tu vois à travers, hein ? Il y a un trou. Mes mains ont été percées. Oui, je suis bien ressuscité. Je ne suis pas un fantôme. C'est bien moi, le Fils de Dieu. C'est bien moi, ton Sauveur. C'est bien moi, celui qui a créé toute la terre, pour moi-même. C'est bien moi le prince de la paix, le Dieu puissant, Père éternel. C'est moi celui qui a donné sa vie à la croix pour toi. Et Thomas lui répondit ceci, mon Seigneur, mon Dieu, et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui croiront sans voir. Et c'est ce que le Seigneur voudrait faire sur ta vie, mon frère, ma sœur. Que tu puisses croire au Fils du Dieu puissant. Que tu puisses croire que finalement, il est à la droite du Père, il intercède pour nous, il est cet avocat pour chacun d'entre nous, tout en étant ce Père, tout en étant ce roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tout en étant celui, comme il est dit dans Ésaïe, et c'est un texte formidable, extraordinaire, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admiral, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il est ce Prince de la paix sur ta vie. Il est celui qui veut poser sa main sur toi. Et celui qui va agir de manière extraordinaire. Que tu t'adresses au Fils pour pouvoir vraiment être touché par lui, il t'accordera sa grâce. Que tu t'adresses à son Père, c'est pareil. Il est là pour vous. Il est là pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vraiment vienne agir au plus profond de ton cœur. On aurait pu parler de la Trinité, mais ce n'est pas le sujet. On ne va pas rentrer dans tous les détails en ce jour. Mais juste puisqu'on puisse répondre à cette question, est-ce que Jésus est Dieu ? Ben oui, il est Dieu. Et tous ces versets sont là. Pour nous faire réaliser combien il est ce Seigneur extraordinaire sur notre vie. Est-ce que les musiciens peuvent venir prendre place ? Que nous puissions réaliser ce matin ceci, que nous puissions vraiment prendre conscience ô combien le Seigneur il est au milieu de nous, il est en nous, avec nous. C'est vrai que c'est quelque chose on est tellement petit pour expliquer toutes ces choses parce que c'est une dimension divine. C'est quelque chose de divin, ce que je viens de vous expliquer. C'est quelque chose qu'on comprendra dans tous ses détails dans le ciel de gloire. Mais comprenez une chose, Jésus n'est pas une option. Alléluia. Jésus n'est pas une option. Il n'est pas juste là pour te sauver, te pardonner, te purifier, puis après dire, bon, maintenant je vais passer par-dessus, et je vais aller directement au Père. Non, il est la même personne. Et aujourd'hui, il est là pour t'aimer. Il est là pour t'entendre la main. Et là pour te dire juste, voilà, je suis avec toi, je suis pour toi, je suis en toi. Alléluia. Et ce que je veux faire dans ta vie, c'est quelque chose de glorieux. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de puissant. On peut se lever à notre place. J'aimerais que nous puissions prendre quelques instants dans ce moment de relation avec le Père, son Fils, Saint-Esprit de Dieu au milieu de nous. Puissions peut-être nous laisser conduire par ce chant. On va chanter ce chant, croire toutes ces paroles, et puis après on va avoir un petit moment de louange, d'adoration, alléluia, pour celui qui nous a sauvés, rachetés, pour celui qui est avec nous, en nous, pour nous, alléluia, pour le Père Céleste qui est là pour vraiment nous chérir, nous saisir dans les bras. Et peut-être que toi, tu souffres justement de ne pas avoir eu un Père Céleste, de ne pas avoir eu un papa dans ta vie, tu n'as pas eu cette affection paternelle. Et Dieu voudrait te dire combien ce matin, il voudrait tendre cette main pour te dire, moi je suis là. Je suis là pour te serrer dans les bras. Je suis là pour te dire combien je suis un père pour toi. Et peut-être tu n'as pas eu tout cela sur cette ici-bas sous la terre. Tu n'as pas eu l'affection. Peut-être tu as perdu ton papa trop tôt, bien trop tôt. Et il y a une souffrance, il y a un manque, il y a vraiment une sécheresse par rapport à ça. Et le Seigneur, Père, veut venir sur ta vie. Venir te serrer dans les bras, que tu puisses simplement ouvrir ta bouche, le célébrer, le louer. Alors on va chanter ce chant et puis on va élever après ensemble la voix pour glorifier celui qui est au milieu de nous. Alléluia. Il n'est pas resté à la croix. Alléluia.